Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 3. Nous continuons notre étude de ce livre et après les événements autour de la naissance du Seigneur Jésus, Matthieu nous présente un autre personnage, un précurseur, Jean-Baptiste, et son message, son ministère, son message de repentance. Et nous allons lire dans le chapitre 3 de Matthieu, les versets 1 à 12. Matthieu chapitre 3. Et nous commençons donc la lecture au verset 1. Et voici donc la parole de Dieu. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit: C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et c'est la parole de Dieu. On raconte une histoire, et c'est une histoire parmi d'autres. Je pense que on pourra trouver des parallèles de cette histoire. C'est l'histoire d'un PDG d'une compagnie aérienne qui avait engagé des négociations avec les pilotes, le personnel, les mécaniciens, pour que tout le monde accepte une baisse de salaire importante pour sauver l'entreprise. Et en même temps, ce PDG et d'autres cadres de l'entreprise allaient recevoir des millions d'euros en primes parce qu'ils allaient sauver l'entreprise grâce à ces négociations. Et quand cette information a fuité, les syndicats se sont révoltés et ils ont mis en péril toutes ces négociations pour sauver l'entreprise. Le PDG a semblé avoir des remords quand il s'est excusé dans les jours qui ont suivi. Mais un peu plus tard, il a démissionné, que ce soit de son plein gré ou pas, que ce soit volontairement ou pas. Et il est parti avec plus d'1,5 million d'euros en indemnité de départ. Et on se pose la question, est-ce que ce PDG s'est vraiment repenti quand il a eu des remords? Ou est-ce qu'il a simplement regretté d'avoir été attrapé? On peut rencontrer des gens semblables qui semblent être à la fois tristes et désolés, mais qui ne sont peut-être ni l'un ni l'autre. Certaines personnes savent comment feindre la tristesse pour obtenir ce qu'elles veulent. Elles savent tromper, elles savent arnaquer les gens. Et de telles expériences nous poussent à penser que la repentance n'est authentique que lorsqu'on avoue et qu'on montre de la contrition avant qu'on ne soit attrapé, avant qu'on ne soit confronté au mal qu'on a fait. Mais Quand un politicien, un chef d'entreprise ou un responsable d'église qui était tombé confesse sa faute après qu'il se soit fait attraper, on va le regarder de manière suspecte. Et c'est curieux parce que on considère la repentance de David comme étant le modèle biblique de repentance, même si David s'est repenti après que Nathan l'ait confronté avec son péché. On considère sa repentance comme un modèle quand David a déclaré « J'ai péché contre l'Éternel ». Il n'a ajouté aucune excuse, il a attendu la décision de l'Éternel, soit le jugement, soit la miséricorde. Et ce qu'on peut déduire de cela, c'est que on ne devrait pas peut-être pas tenir compte de la chronologie. Est-ce que la repentance est sincère seulement si elle est avant la confrontation? Dans ce cas-là, David serait exclu. On ne devrait pas non plus essayer de vérifier la pureté des motivations de la personne qui montre une certaine repentance, qui manifeste du remords. La sincérité est un problème. On l'a déjà dit ici qu'on peut être sincèrement dans l'erreur, mais ce n'est pas le problème principal. Pour connaître le problème principal, il faut se tourner vers Jean-Baptiste, le ministre, le prophète de la repentance. Et tout d'abord, le premier point, la mission prophétique de Jean-Baptiste. Où se trouve-t-il? Il se trouve dans le désert. Dans le désert vient la voix d'un prophète, d'autant plus frappant, d'autant plus remarquable, parce qu'il n'y avait pas eu de prophète en Israël depuis 400 ans. Jean prêchait dans le désert, loin du temple, loin de ce lieu qui était le centre de la religion organisée de la nation d'Israël. Il prêchait loin de la civilisation. Cet emplacement nous rappelle le désert où le peuple d'Israël a erré après avoir quitté l'Égypte. C'est là que Dieu a purgé Israël de son péché. C'est là qu'il a façonné le peuple d'Israël pour qu'il devienne la nation mise à part pour lui. Il est vrai qu'à l'époque de Jean-Baptiste, le peuple d'Israël pensait qu'un prophète ou le Messie pourrait éventuellement venir du désert pour rebâtir la nation. Et on lit donc dans les premiers versets, en ce temps-là apparut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et c'est son message, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Certains voient la repentance comme un sentiment, la tristesse pour quelque chose qu'on a fait ou qu'on a omis de faire. D'autres ont entendu dire que le mot se repentir dans le Nouveau Testament signifie changer d'avis. C'est à peu près vrai, mais la repentance implique beaucoup plus que le mental. Le changement d'esprit fait partie d'un changement personnel complet. Un changement d'esprit, un changement de cœur, un changement de vie. Plus fondamentalement, se repentir, c'est retourner à Dieu, retourner à son alliance. C'est lui être loyal, c'est lui obéir. Et Jean-Baptiste donne une raison pour cela. Le royaume arrive, le Seigneur vient et il apporte le jugement. Avec lui. Il va faire quelque chose de nouveau. Dieu envoie quelqu'un qui est bien plus grand qu'un simple prophète. Et pour être prêt, dit Jean, nous devons être fidèles à ce que nous savons déjà. Si nous avons été fidèles, nous devons revenir au Seigneur. Le Seigneur peut avoir de grandes choses en réserve pour un individu, pour une famille, pour une église, mais avant de passer à de choses nouvelles, nous devons être fidèles aux choses anciennes, fidélité envers Dieu, amour pour Dieu, miséricorde pour le prochain. Mais quelle est la nature de la véritable repentance? Lorsque Jean appelle le peuple d'Israël à la repentance, il fait plus que de les appeler à simplement être désolé pour pour les actions passées. La repentance peut inclure la tristesse parce que nous sommes conscients d'avoir blessé quelqu'un. Le péché peut causer de la souffrance à d'autres. Mais on peut pécher contre quelqu'un sans le blesser. Et on peut aussi infliger de la douleur aux autres sans pécher contre eux. On peut pécher sans causer de douleur quand on va envier quelqu'un. La personne ne le sait pas. Quand on va convoiter après cette personne. Mais d'un autre côté, on peut faire du mal à quelqu'un sans pécher. Le personnel médical, les dentistes par exemple, les kinés font du mal tous les jours. Mais ils n'ont pas besoin de se repentir parce que la douleur fait partie de leur thérapie. Les enseignants, les entraîneurs d'une équipe sportive infligent également une sorte de douleur parce qu'ils cherchent à corriger l'erreur. Une femme célibataire, sympathique, qui recherche l'amitié peut infliger de la douleur à un homme célibataire sans aller jusqu'au péché. Elle va lui sourire, elle va l'appeler par son nom, elle va écouter attentivement à ce quand il parle. L'homme va confondre la gentillesse pour un intérêt romantique. Et il va chercher à aller plus loin. La femme comprend son dessein, elle va prononcer ces mots tant redoutés, mais « je te considère simplement comme un ami ». Et l'homme est écrasé. La femme l'a blessé d'une certaine manière. Et même si elle ne recherche qu'une simple amitié, elle n'a pas péché. Elle n'a donc pas besoin de se repentir. Le péché peut blesser les autres, mais la repentance est bien plus que la tristesse d'avoir blessé quelqu'un. La repentance est aussi bien plus que la tristesse de nous blesser nous-mêmes. Les pécheurs que nous sommes sont comme des pauvres cow-boys. Les péchés sont des balles qui peuvent toucher les autres, mais les pécheurs se tirent aussi souvent dans le pied. Proverbe 5, 22 dit ceci, « Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. » Le filet du péché piège le pécheur. Certains d'entre nous se rappellent peut-être du président, de l'ancien président américain Bill Clinton, qui était très en colère quand il a été accusé du péché d'avoir une relation illicite avec une interne de la Maison-Blanche et était très en colère, violemment. Il a dit « Je n'ai jamais eu de relation avec cette femme. » Il a remis en question les motivations de ceux qui disaient justement qu'il en avait eu. Et quelques semaines plus tard, quand les preuves irréfutables de cette relation avec cette femme sont devenues publiques, le président Clinton était plein de remords. Est-ce qu'il était vraiment repentant? Peut-être, peut-être pas. On ne connaît pas sa condition. La repentance est bien plus que la tristesse, bien plus que le remords pour un comportement honteux. Même si quand un homme est pris dans un péché, la publicité et la honte peuvent conduire à la repentance. Mais la vraie repentance est bien plus que cela. La repentance est plus que la tristesse que nous connaissons quand on a été pris ou blessé nous-mêmes ou quand on a blessé d'autres personnes. Et l'exemple de Judas nous le montre. Judas a trahi le Seigneur Jésus jusqu'à la mort pour des raisons variées. Les évangiles disent qu'il avait l'habitude de voler dans la bourse commune des disciples, que les sacrificateurs lui ont payé une somme substantielle pour avoir trahi Jésus. Que Satan est entré dans son cœur. Après la mort de Jésus, Judas est rempli de remords. Il a essayé, mais il a échoué de rendre l'argent qu'il avait gagné pour avoir trahi le Seigneur Jésus-Christ. Et plus tard, il s'est donné la mort. Il était désolé pour son péché, mais au lieu d'amener sa peine à Dieu, il était désespéré. Il a regardé, il s'est tourné vers lui-même. Il ne s'est pas tourné vers Dieu. Ces remords sont devenus une auto-condamnation. Se condamner, ce n'est pas se repentir. Se vautrer dans l'auto-flagellation est une forme d'égoïsme. Dieu ne veut pas que nous étouffions dans notre culpabilité. Il veut que nous amenions notre culpabilité à lui, afin que nous puissions trouver le pardon et la libération, la paix qu'il accorde en son Fils Jésus-Christ. Celui qui se repent réellement porte sa peine vers le Seigneur. Quand l'apôtre Paul discute de la repentance de certains chrétiens à Corinthe, il dit qu'il regrette sa réprimande, que sa réprimande ait blessé l'Église pendant un certain temps, mais il est heureux parce que votre tristesse vous a porté à la repentance. 2 Corinthiens 7. Et il explique, « Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » 2 Corinthiens 7, versets 8 à 10. Dans la tristesse du monde, le pécheur se sent mal pour lui-même, pour sa souffrance, pour sa honte, pour sa réputation, pour ses relations endommagées. Et dans la tristesse selon Dieu, le pécheur veut voir la justice être accomplie. Il veut restaurer les relations, d'abord avec Dieu, et ensuite avec son prochain. La véritable repentance regarde à l'intérieur au péché, à l'extérieur au mal causé aux autres, mais aussi regarde à Dieu et à son Sauveur, Jésus-Christ. Le grand catéchisme de Westminster, écrit en 1649, la question 76 pose la question suivante. Qu'est-ce que la repentance qui conduit à la vie? La réponse, la repentance qui conduit à la vie est une grâce salvatrice, opérée dans le cœur d'un pécheur par l'Esprit et la parole de Dieu, par lesquels, hors de la vue et du sens, non seulement du danger, mais aussi de la saleté, de l'odieuse nature de ses péchés, et la conscience de la miséricorde de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ à ceux qui sont pénitents. Le pécheur pleure et déteste tellement ses péchés qu'il se détourne loin d'eux tous pour se tourner vers Dieu, agissant et travaillant constamment à marcher avec Dieu dans toutes les voies d'une nouvelle obéissance. Les pasteurs, les théologiens, les experts qui ont écrit cela savaient que la vraie repentance est plus que la honte d'avoir commis de mauvaises actions, plus que le chagrin d'avoir infligé de la douleur à soi-même ou aux autres. L'homme repentant regrette d'avoir offensé Dieu. Il a une haine du péché qu'il a commis. Le pécheur peut se sentir terrible ou il peut se sentir paralysé. Il peut avoir causé beaucoup de mal ou peu de mal. Mais celui qui se repent, contrairement à Judas, refuse de désespérer. Il se détourne de ce péché odieux pour se tourner vers un Dieu plein de grâce. Il sait que Dieu est miséricordieux. Il sait aussi que la vraie repentance implique une marche avec Dieu dans l'obéissance. Celui qui se repent se détourne du péché une fois pour toutes, mais il se tourne aussi quotidiennement vers le Seigneur pour obtenir sa miséricorde, parce qu'il sait qu'il chute continuellement. Et lorsque le catéchisme de Westminster appelle la repentance une grâce, un fruit de l'Esprit, il ne fait que reprendre ce que l'Écriture dit. Dieu a accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie, c'est acte 11, 18. Si l'Esprit de Dieu ne nous éclaire pas, on ne verra jamais que le péché est une rébellion contre Dieu. L'Esprit Saint vient nous convaincre, vient nous parler. Nous écoutons, nous acceptons, nous abandonnons nos voies pécheresses. Nous retournons au Seigneur. L'homme qui se repent a le sens de la corruption, de la saleté, du danger du péché. Il sait que les sentiments de tristesse ne sont pas l'essence de la repentance. Le péché, par contre, parfois peut se sentir très bien. Certaines personnes peuvent se demander comment est-ce que cela peut être mal quand on se sent si bien? Et la réponse est ceci, les actes pécheurs peuvent se sentir si bien parce que nos sentiments ou nos émotions ne sont pas plus dignes de confiance que n'importe quelle autre faculté que nous avons dans notre corps pécheur. Nous ne pouvons pas mettre notre confiance dans nos émotions ou dans nos sentiments. Mais la repentance peut commencer par le sentiment que quelque chose ne va pas. Je ne sais pas si vous avez vu les films de la trilogie Matrix. J'ai vu quelques extraits. Mais dans le premier film, il y a une conversion intéressante entre Neo, le protagoniste, qui est allé voir son guide Morpheus. Morpheus lui dit, je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite, un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond, sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, comme un implant dans ton esprit, de quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? Néo répond, de la matrice? Morpheus, non. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? La matrice est universelle, elle est omniprésente. Elle est avec nous ici en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Elle est le monde quand superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Et Néo pose la question, quelle vérité? Morpheus répond, le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Dans ce scénario d'un film du monde, c'est plutôt un diagnostic intéressant de la condition humaine. Mais la vraie repentance inclut plus qu'un sentiment que quelque chose va mal. Aussi grand que soit notre sentiment de péché ou de rupture, celui qui se repent a, pour reprendre les paroles ou le langage de la confession de Westminster, il a une conscience de la miséricorde de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. La repentance comprend une conviction persistante que quelque chose ne va pas, mais elle va plus loin que la crainte ressentie par ces deux personnages, Néo et Morpheus. Dans l'histoire de la rédemption, Dieu donne le diagnostic du péché, mais il va apporter le remède. Par le Seigneur Jésus-Christ, Dieu enlève la culpabilité du péché, il couvre sa honte, il nous renouvelle afin que nous puissions avancer avec lui dans le combat contre le péché. La haine du péché et la tristesse ne cèdent pas au désespoir, mais elles nous poussent à rechercher Dieu et à vivre dans une vie de fidélité et d'obéissance. Mais l'appel de Jean à la repentance a des caractéristiques particulières et c'est ce que nous voulons voir maintenant. Jean et l'héritage des prophètes. Jean est décrit comme une voix dans le désert. Une telle voix qui parle loin du centre de civilisation aurait pu passer inaperçue. Sauf que l'Esprit de Dieu remuait le peuple. Dieu les préparait pour la venue de son Messie. Jean est celui, comme le dit le verset 3, celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour de ses reins, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Ce vêtement fait penser à Élie. Un autre prophète appelé par Dieu a déclaré le jugement sur Israël. Et on ne s'attendrait pas à ce que un message appelant à la repentance soit populaire. Mais Matthieu nous dit, verset 5, que les gens venaient, se pressaient pour entendre Jean. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Ils venaient de la capitale. Ils venaient de la région méridionale d'Israël, des environs de là où se trouvait Jean-Baptiste. Et quand ils l'entendaient, ils ont confessé leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui, pas dans les eaux du Jourdain. Et la confession de leurs péchés, la volonté d'être lavés par les eaux du baptême, suggère que les foules étaient sincères. Il est vrai qu'à l'époque, beaucoup de Juifs pratiquaient des lavements rituels pour la purification. Mais ce baptême se dirige vers le concept chrétien du baptême parce qu'il signifie un changement de cœur, une identification avec une nouvelle communauté. Matthieu continue, beaucoup de pharisiens et de sadducéens sont venus observer le ministère de Jean. Les chefs religieux, les sadducéens, les pharisiens, chefs religieux de l'époque, représentaient moins de 5% de la population. Ils ne sont pas venus pour écouter Jean. Ils ne sont pas venus pour se repentir. Ils sont venus pour enquêter. Et en cela, ils ressemblent à tous les chefs religieux d'Israël qui ont souvent résisté, voire même attaqué les prophètes comme Élie, Élisée ou Jérémie. Et Jean-Baptiste a décelé leur hypocrisie. Il lance une critique en quatre parties. Tout d'abord, verset 7, il les accuse. Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Les vipères sont rusées, trompeuses, dangereuses. Ces hommes étaient tous les trois. Ils espéraient apparemment échapper à la colère du jugement de Dieu en venant vers Jean. Deuxièmement, Jean va leur commander, verset 8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Parce que la repentance authentique est un changement de cœur. Il produit un changement de vie, il produit du fruit. Si le cœur change, les actes changent, la vie change. Troisièmement, Jean va anticiper leur objection. Les dirigeants religieux ne devaient pas se dire « Abraham est notre père » parce que Dieu n'est pas impressionné par une lignée naturelle. Jean va même leur dire au verset 9 « Je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Personne n'échappe au jugement de Dieu à cause de ses ancêtres, pas même les enfants physiques d'Abraham. » Chaque génération a besoin d'entendre cet avertissement. Personne aujourd'hui n'est exactement comme les pharisiens du temps de Jean, mais comme les pharisiens, on peut devenir fier de nos ancêtres. On peut être complaisant à cause de notre héritage. Et Jean dit que les pierres nues qui sont près du Jourdain sont aussi qualifiées pour être fils de Dieu que les Juifs qui étaient présents. On a déjà dit ici, Dieu n'a pas de petits-enfants. Nous devons nous rappeler que personne n'est sauvé par la foi de ses parents. Chaque personne doit se repentir et croire, ou bien périr. Et quatrièmement, Jean avertit que la repentance est urgente. Verset 10, « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Le bûcheron mesure un arbre. Il est prêt à lâcher ses coups si l'arbre ne porte pas bientôt des fruits. Le jour du jugement est proche. Et les pharisiens, les sadducéens et ceux qui étaient présents doivent savoir que ce n'est pas l'heure d'évaluer Jean. C'est l'heure de se réconcilier avec Dieu ou bien d'en subir les conséquences. Et l'avertissement tient toujours. C'est la chose la plus urgente aujourd'hui. D'être réconcilié avec Dieu. Mais comment bien comprendre la repentance et le message de repentance annoncé par Jean-Baptiste? Le repentir est utilisé de quatre manières dans les Écritures. Premièrement, le repentir peut signifier le désir d'abandonner la méchanceté, de vivre d'une manière plus noble. Cette repentance se détourne de certains péchés, mais sans nécessairement se tourner vers Dieu. Ce n'est qu'une réforme morale, sans conversion à une foi durable en Dieu. Aujourd'hui, on dirait que se repentir pourrait conduire quelqu'un à boire moins d'alcool, à moins courir les jupons, à être plus honnête, par exemple. Deuxièmement, le repentir peut signifier une conversion à salut, une tristesse selon Dieu. Ésaïe 55, verset 7, dit ceci, « Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Troisièmement, le repentir peut signifier le mode de vie qui suit l'acte définitif de repentance, l'acte définitif de croire au Seigneur. Ceux qui se convertissent à la foi en tant qu'adultes font souvent une rupture radicale avec le péché ou le jour où ils se repentent de leur péché, le jour où ils mettent leur confiance en Dieu. Mais personne ne reconnaît tous ces péchés immédiatement. Et si la repentance est notre mode de vie, nous allons chercher et abandonner nos péchés un par un au fur et à mesure que l'Esprit Saint nous donne la grâce de les reconnaître. C'est ce message qu'Ézéchiel avait en tête quand il crie à Israël « Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. » Ézéchiel 18, verset 30. Les faux du temps, les péchés habituels nous aveuglent. Une personne, de telle sorte qu'une personne vraiment repentante doit œuvrer pendant des années pour briser des habitudes qui sont profondément enracinées. Et on découvre l'étendue du mal très lentement. Il faudra peut-être des années à un homme pour savoir que ses craintes au sujet des richesses l'ont poussé à se cramponner à son argent, à être avare ou parfois même trompeur. De la même manière, on se débarrasse de nos préjugés avec beaucoup de difficultés, que ce soit contre les riches ou les pauvres, ou les noirs ou les blancs, ou les jeunes ou les vieux, les maigres, les potelés. Étant donné que cela peut prendre une vie entière pour rejeter nos péchés, la repentance est un mode de vie pour le croyant. Et quatrièmement, le repentir peut signifier l'occasion où un homme ou une femme rachetée ou même une assemblée retourne à Dieu après une saison spirituellement froide. Dans ce repentir, nous revenons à notre premier amour, à notre première dévotion. C'est ce que le Seigneur dit à Éphèse, à l'église d'Éphèse, en Apocalypse 2, versets 4 et 5. « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Ce passage nous rappelle d'abord que à nous repentir de nos péchés, nous tourner vers Dieu. Il exhorte chaque homme, chaque femme, chaque jeune à se réconcilier avec Dieu en se repentant du péché, en se tournant vers le Seigneur Jésus-Christ. Le message biblique de repentance appelle aussi chaque croyant à vivre une vie de repentance quotidienne. Et c'est vrai individuellement, c'est aussi vrai collectivement. L'Église est une assemblée de repentants qui pleurent leurs péchés, qui se détournent de leurs péchés et qui regardent au Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, nous devons nous repentir de nos péchés manifestes, le vol, la tromperie, des choses similaires, mais pour beaucoup d'entre nous, les péchés plus subtils, comme l'infidélité, la froideur ou la complaisance ou l'avidité, voire l'admiration idolâtre, seront l'objet de nos prières. Et compte tenu de la portée, de la profondeur de nos péchés, la repentance doit être un mode de vie. Les derniers péchés que j'ai mentionnés sont abstraits, mais la prédication de Jean a aussi montré que la repentance est concrète. Et quand Luc parle du ministère de Jean-Baptiste, il montre que certaines personnes ont demandé à Jean comment vivre leur repentance. Et Jean a dit aux percepteurs d'impôts de ne pas percevoir d'impôts supplémentaires. Il a ordonné aux soldats de ne pas extorquer d'argent, de ne pas faire de fausses accusations de se contenter de leur salaire. Luc 3, versets 12 à 14. C'est-à-dire, il a ordonné aux hommes qui avaient une certaine puissance de ne pas saisir les richesses par des actes d'injustice. Il a demandé aux deux groupes de renier les péchés qui étaient les plus communs dans leur milieu, et nous devons faire de même. Nous devons chercher à identifier et, si possible, purger les péchés qui sont les plus communs dans notre milieu. Un professeur, par exemple, explique qu'il a appris que certains péchés sont faciles à commettre. Il a la tentation de trop divertir et de ne pas assez enseigner, de déformer les propos des experts dont il rejette les théories, d'exercer l'autorité avec une main lourde, de se préparer pour la classe de manière adéquate plutôt que de la meilleure des manières. C'est un constat du professeur, mais chacun de nous devons trouver et quels sont les péchés dans notre milieu et les rejeter. Mais quel est le témoignage? Et le passage termine avec le témoignage de Jean au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Comme tout autre prophète, sa prédication se détourne de lui-même pour pointer vers le Seigneur Jésus-Christ. Versets 11 et 12. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et le verset 12 va souligner le jugement que Jésus apporte. Le verset 11 souligne la suprématie de Jésus sur Jean. Le ministère de Jésus aura beaucoup plus de pouvoir. Même si Jean-Baptiste était le plus grand homme de sa génération, qu'il était acclamé dans tout le pays, Jésus est plus grand. Il est plus grand que lui. Jean lui-même dit qu'il n'est pas digne de remplir le devoir d'un esclave, de porter les sandales sales de Jésus. Il n'est pas digne d'être l'esclave de Jésus. Et en disant cela, il dit à ses auditeurs de regarder à Jésus-Christ, pas à lui-même. Et chaque église doit répéter ce message, ce témoignage. Le plus grand prophète n'est qu'une voix. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul rédempteur, le seul sauveur. Tous les prophètes de Dieu, tous les responsables d'Église doivent répéter le témoignage de Jean. À côté de Jésus, aucun responsable n'est plus qu'une voix. Les prédicateurs, les enseignants d'aujourd'hui ne font que répéter, réappliquer ce qui a déjà été donné dans la parole de Dieu. L'Église a beaucoup de serviteurs, mais un seul héros, un seul sauveur. Devant lui, les prophètes s'inclinent, mais comme les anges. Mais tout aussi important, le Seigneur Jésus nous reçoit chaque fois que nous échouons, afin que nous puissions nous repentir dans tous les sens du terme, en lui amenant nos lacunes, nos fautes, nos péchés. Ceux qui se repentent connaissent leurs péchés, mais plus que cela, ils connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Ils connaissent la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui distingue les différents pécheurs qu'on a mentionnés tout à l'heure. Le PDG de la compagnie aérienne, l'ancien président Bill Clinton, Judas, David, tous ont fait des choses honteuses. Ils pourraient tous nous pousser à nous demander, est-ce qu'il s'est vraiment repenti? Ou bien est-ce qu'il a été triste parce qu'il s'est fait prendre? Et parfois, on peut se poser la même question à nous-mêmes. Mais c'est une erreur de scruter les mots, de scruter le moment, ou d'essayer de comprendre l'âme d'un pécheur. Nous devrions plutôt nous demander où le pécheur regarde. Est-ce qu'il regarde à ses défauts? Est-ce qu'il regarde à ses problèmes? Ou bien est-ce qu'il regarde au Seigneur Jésus et à sa miséricorde? Celui qui se détourne du péché, qui regarde au Seigneur Jésus-Christ comme il est présenté et offert dans l'Évangile, connaît le pardon de Dieu. Le moment peut être suspect, Les paroles peuvent être erronées, la qualité de notre tristesse peut être impure, mais personne n'est pardonné sur la base de sa repentance. Nous sommes pardonnés par la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour expier nos péchés, pour nous accorder la vraie repentance, cette repentance qui ouvre une vie nouvelle. Où est-ce que nous regardons? Est-ce que nous regardons à nous-mêmes, à nos défauts, à nos lacunes? Ou bien est-ce que nous regardons au Seigneur Jésus-Christ, à sa perfection et à sa miséricorde? Repentez-vous, dit Jean, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Est-ce que nous connaissons cette repentance? Voilà la question à se poser chacun d'entre nous. Que Dieu donc nous aide à méditer, à ruminer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.